Chapitre 2. Jules prend une autre douche à leur retour, puis le minable qui lui sert de petit ami, Ronald Rum Collins, et Brenda Morello, la copine de Jules depuis le cours élémentaire, lui rendent visite. Brenda est une petite blonde, avec d'immenses yeux marrons et une silhouette si épanouie, des formes si pleines, que l'on dirait qu'elle a été conçue par Dieu pour faire perdre aux hommes le fil de leurs pensées dès qu'ils la voient passer. Elle le sait, bien sûr, et apparemment ça la gêne. Elle continue à s'habiller comme un garçon manqué, une chose que Mary Pat a toujours appréciée chez elle. Jules appelle Brenda dans sa chambre pour avoir son avis sur ce qu'elle doit mettre, et Mary Pat se retrouve coincée dans la cuisine en compagnie de Rum qui, comme son père et ses oncles avant lui, a autant de conversations qu'un jambon cuit. À noter toutefois qu'il est passé maître dans l'art de ne pas dire grand-chose quand il est avec les filles et ses copains, à Saucy High, transformant la torpeur naturelle de son regard en une sorte de mépris paresseux que les jeunes considèrent comme un signe de décontraction désinvolte. Et sa propre fille, si elle laissait prendre.
« Vous avez l'air super aujourd'hui, Madame Fennessy. »«
Merci, Ronald. » Il promène son regard tout autour de la cuisine, comme s'il ne l'avait pas déjà vu 100 fois.
« Ma mère m'a dit qu'elle vous avait vu au supermarché la semaine dernière. »«
Ah ouais ?»«
Ouais. En train d'acheter des céréales, elle a dit. »«
Bon, si elle le dit. »«
Quelle sorte ?»«
De céréales ?»«
Ouais. »«
Je ne me souviens plus. »«
Moi, j'aime les Fruit Loops. »«
C'était préféré, c'est ça ?»
Il hoche la tête plusieurs fois. Sauf quand elles sont restées trop longtemps dans le lait et qu'elles lui donnent, vous voyez, des couleurs différentes.
Ça, c'est pas terrible.
Du coup, je me dépêche de les manger.
Il a une expression dans les yeux, comme s'il était en train de jouer un bon tour à Kellogg's.
Tandis que les lèvres de Mary Pat disent « Ah, c'est pas bête, ça. »
Sa tête pense « Pourvu que tu ne fasses jamais d'enfant. »
Mais, ouais, j'aime pas avoir des couleurs dans mon lait.
Il hausse les sourcils, comme s'il venait de dire quelque chose d'astucieux.
Pas pour moi.
Elle lui adresse un sourire crispé. Et si vraiment tu dois faire des enfants, s'il te plaît, ne les fais pas avec ma fille.
Bon, j'aime le lait quand même, mais sans couleur.
Elle continue à lui sourire parce qu'elle est trop ennuyée pour parler.
« Oh, hé !» dit-il.
Elle se retourne et voit Jules et Brenda entrer dans la pièce. Rum passe à côté de Mary Pat, pose une main sur la hanche de Jules et l'embrasse sur la joue.
« Dis-lui qu'elle est belle au moins,
qu'elle est jolie. »«
Bon, allez, on file d'ici »
dit-il. Puis il donne une claque sur la hanche de Jules et pousse un cri aigu, quelque part entre le gloussement et le glapissement, qui donne aussitôt à Mary Pat l'envie furieuse de lui fracasser son putain de crâne avec un rouleau à pâtisserie.
« Salut, maman !»
Jules se penche et lui donne un petit baiser sur la joue. Et Mary Pat saisit une odeur de cigarette, une bouffée du shampoing « Gee, your hair smells terrific » et une touche de parfum « Love's Baby Soft » derrière les oreilles de sa fille. Elle voudrait lui attraper le poignet et lui glisser « Trouve-toi quelqu'un d'autre. Trouve-toi quelqu'un de bien. Quelqu'un qui ne sera peut-être pas d'une grande finesse, mais qui ne sera pas méchant. Celui-ci va devenir méchant parce qu'il n'est qu'à 2 crans au-dessus de l'attardé mental. Mais il se prend pour quelqu'un de plutôt futé, et les gens qui sont comme ça deviennent méchants quand ils se rendent compte que le monde se moque d'eux. Tu es trop bien pour ce garçon, Jules.
Mais tout ce qu'elle dit, c'est « Essaie de rentrer à une heure raisonnable. »
Et elle lui rend son petit baiser rapide sur la joue. Et l'instant d'après, Jules n'est plus là, englouti dans la nuit. Quand elle va se préparer son plateau télé, Mary Pat constate une nouvelle fois que le gaz est coupé. Elle remet son repas dans le congélateur et remonte la rue jusqu'au Shaughnessy. À ça aussi, tout doit avoir un surnom. C'est comme une loi du droit canon ou une connerie de ce genre. Alors quand on parle du bar qui est la propriété de Michael Shaughnessy, on ne dit jamais au Shaughnessy, mais au Mick Shaun. Le Mick Shaun
est connu pour ses bagarres du samedi soir. Ils ont installé un tuyau d'arrosage derrière le bar pour nettoyer le sang par terre, et pour son rôti en cocotte, qui mijote toute la journée dans la cuisine minuscule située au bout du comptoir, juste après le tuyau d'arrosage. Mary Pat s'installe au bar et commande une portion de ce rôti. Elle boit 2 Old Mill Pression et taille une bavette avec Tina McGuigan. Mary Pat connaît Tina depuis la maternelle, mais elles n'ont jamais été vraiment proches. Tina a toujours fait penser Mary Pat à une noix. Quelque chose de dur et recroquevillé, sec et difficile à briser. Mais les hommes l'ont toujours trouvée mignonne, peut-être parce qu'elle est petite, blonde et qu'elle a l'air désarmée, et qu'ils refusent de croire que ce n'est qu'un air. Le mari de Tina, Ricky, purge une peine de 7 à 10 ans à la prison de Walpole pour le braquage d'un fourgon blindé qui a foiré dès le départ. Des balles ont été tirées, mais il n'y a pas eu de blessés, Dieu merci. Ricky n'a pas balancé Marty, qui avait commandité le coup. Et donc, il se la coule douce, ce qui est bien pour lui. Mais ça n'aide pas Tina à payer le loyer ni les uniformes d'école privée catholique et les notes du dentiste pour ses 4 gosses.
« Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ?»
dit-elle à Mary Pat, après avoir brièvement râlé sur le sujet.
« Pas vrai ?»«
C'est vrai, ça, » répond Mary Pat. « Qu'est-ce qu'on peut y faire ?» C'est un refrain qui leur est cher à tous. Ça va avec « c'est comme ça et pas autrement » et « c'est des choses qui arrivent ». S'ils sont pauvres, ce n'est pas parce qu'ils ne font pas d'efforts, ni parce qu'ils ne travaillent pas dur, ni parce qu'ils ne méritent pas mieux. Mary Pat peut regarder presque toutes les personnes qu'elle a connues, à Commonwealth en particulier, ou dans tout ça aussi en général, et elle ne trouvera que des gens qui se battent, qui se cassent le cul, des gens qui traînent des fardeaux de 10 tonnes comme s'ils pesaient le même poids qu'une balle de golf, des gens qui vont au boulot jour après jour et qui donnent à leurs abrutis de patrons ingrats 10 heures de travail par journée de 8 heures. S'ils sont pauvres, ce n'est pas parce qu'ils se laissent aller. Ça, c'est sûr. Ils sont pauvres parce que la quantité de chances qui circulent dans ce monde est limitée et qu'ils n'en ont jamais reçu la moindre part. Si la chance n'atterrit pas en plein sur vous quand elle tombe du ciel, si elle ne vous trouve pas sur son chemin quand elle se réveille le matin et qu'elle se met à chercher quelqu'un à qui elle va s'attacher, vous ne pouvez rien y faire. Il y a bien plus de gens dans ce monde qu'il n'y a de part de chance. Alors, ou bien vous êtes au bon endroit au bon moment, à la seconde même où la chance fait son apparition, une seule fois et pour ne plus jamais revenir. Ou bien vous n'y êtes pas. Et dans ce cas, c'est des choses qui arrivent. C'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Tina boit une gorgée de bière.
Il était comment ton rôti ?
C'était bon, répond Mary Pat.
D'après ce que j'ai entendu dire, c'est plus que c'était.
Tina regarde autour d'elle dans le bar.
Comme tout le reste, ces temps-ci.
Non, dit Mary Pat. Tu devrais essayer. Tina la regarde longuement, posément, comme si Mary Pat lui avait suggéré de brûler son soutien-gorge ou une connerie de ce genre.
Pourquoi tu penses que je devrais essayer des choses ?
Mary Pat scrute les yeux de Tina et elle voit dans leur flottement trouble que Tina a probablement bu des trucs un peu plus forts avant son arrivée. Alors n'essaie pas.
Non, je veux juste savoir.
Qu'est-ce que tu veux savoir ?
Juste, qu'est-ce que ça veut dire, bordel ?
Dit Tina.
Pourquoi tu veux que j'essaie ce ragoût ?
Ce ragoût ? Mary Pat sent que le sang lui monte dans le cou et afflue dans sa mâchoire. N'est pas du ragoût. C'est un rôti en cocotte.
Tu sais ce que je veux dire. Fais pas semblant de pas savoir ce que je veux dire, merde.
Et Mary Pat doit faire un effort pour ne pas lui enfoncer un doigt dans la figure. Il n'y a rien de changé. C'est toujours le même bon vieux rôti en cocotte.
Alors mange-le.
C'est ce que je viens de faire.
Alors pourquoi tu m'emmerdes avec ça ?
Mary Pat est surprise par la soudaine lassitude dans sa propre voix. « Je t'emmerde pas, Tina. » Tina était penchée en avant, la bouche ouverte, des rides ondulant dans son cou. Mais là, entendant le ton de Mary Pat, ses yeux soudain s'adoucissent. Elle se relâche sur son siège, étire une bouffée de sa parliament en mouillant le bout, puis souffle rapidement la fumée.
« Je sais pas ce que je raconte. »«
Pas grave. » Tina secoue la tête.
« Je suis juste en rogne. Et je sais même pas pourquoi. Quelqu'un m'a dit, je peux même pas te dire qui, un type, que le rôti en cocotte n'était plus aussi bon ici. Et je me suis dit, je peux pas supporter ça. Je peux pas. »
Elle pose la main sur le poignet de Mary Pat pour qu'elle se regarde dans les yeux.
Je veux dire, tu sais, Mary Pat, il y a des fois, je peux plus le supporter.
Je sais, dit Mary Pat, même si elle ne sait pas. Mais en même temps, si, elle sait. Elle est rentrée depuis une demi-heure quand Timmy Gavigan vient déposer les pancartes. Timmy G est d'une famille de 9 enfants qui habite dans K Street. Il jouait plutôt bien au hockey au lycée, mais pas suffisamment bien pour obtenir une bourse où que ce soit. Alors maintenant, à 20 ans, il travaille dans un atelier de pots d'échappement de Dorchester Street et il traficote pour la bande de Butler quand ils veulent bien lui jeter un os à ronger. C'est à cela qu'aspirent tous les jeunes gars du coin ces temps-ci, bosser pour la bande de Butler. Mais elle soupçonne Timmy d'être un peu trop tendre, trop bien au fond de lui, pour gravir les échelons comme l'ont fait des durs tels que Brian Shea et Frankie Toomey. Tandis qu'elle l'observe dans le couloir se diriger vers la porte de sortie, elle espère qu'il va finir par y voir clair et trouver sa voie avant qu'un séjour de 5 ans en prison ne la trouve pour lui. Elle passe les 2 heures suivantes à fixer les pancartes sur les lattes de bois que Brian Shea a apportées avec les clous fournis par Timmy G. Pour ce qui est du marteau, de toute évidence, quelqu'un a supposé que Mary Pat en possédait un, ce qui est le cas. Les clous sont petits et fins, le genre difficile à maintenir bien droit sans que le pouce soit sur la trajectoire du marteau. Mais elle se débrouille. Pour la première fois aujourd'hui, et peut-être pour la première fois cette semaine, elle se sent utile. Elle sert à quelque chose. Elle apporte sa petite contribution à la résistance contre la tyrannie. On ne peut pas appeler ça autrement. Aucun autre mot ne convient. Les gens qui sont au pouvoir sont en train de lui dire dans quelle école elle doit envoyer son unique enfant encore en vie. Et peu importe si cela doit mettre en danger l'éducation de son enfant ou même sa vie. Quelle connerie! Et ce n'est pas une question de couleur de peau. Elle serait autant en colère si on lui disait qu'elle doit envoyer sa gamine à l'autre bout de la ville, à Rivière ou dans le North End ou n'importe quel autre endroit à majorité blanche. La pensée lui traverse l'esprit que, peut-être, elle ne serait pas autant en colère, peut-être qu'elle serait seulement très ennuyée. Mais aussitôt, elle cloue une autre pancarte sur une autre latte et se dit « Connerie tout ça !» C'est pas la couleur que je vois, c'est l'injustice. Encore un bon exemple de ces connards de riches dans leur château de banlieue chic, dans leur petite ville entièrement blanche, qui disent aux pauvres, coincés dans la grande ville, comment les choses doivent se passer. À cet instant, Mary Pat éprouve un sentiment de proximité avec les Noirs qui la surprend. Est-ce qu'ils ne sont pas tous victimes de la même chose? Est-ce qu'on n'est pas en train de leur dire à tous comment ça doit marcher? En fait, non, parce que des tas de gens de couleur ont voulu ce qui arrive. Ils sont allés devant les tribunaux pour ça. Et si vous venez d'un quartier merdique comme Five Corners, ou des cités coupe-gorge de Blue Hill Avenue, ou Geneva Avenue, bien sûr, vous avez envie d'aller dans un endroit plus agréable. Mais ça aussi n'est pas un endroit plus agréable. C'est juste un endroit plus blanc. South High est un lycée aussi pourri que Roxbury High. Les mêmes toilettes démolies, les tuyaux du chauffage central fendus, les dégâts des eaux sur les murs, les moisissures, la peinture écaillée, les manuels périmés avec les pages qui se détachent.
Elle ne peut pas en vouloir aux gens de couleur d'avoir envie de s'échapper de leur trou merdique. Mais ça n'a pas de sens de vouloir l'échanger contre son trou merdique à elle. Et le juge qui a ordonné tout cela vit à Wellesley, où sa propre loi ne s'appliquera pas. Et si les gens de couleur avaient fait un procès pour pouvoir fréquenter le lycée de Wellesley, de Dover Middle, ou celui de Weston qui va de la maternelle à la terminale, Mary Pat irait volontiers manifester avec eux. Mais en même temps, il y a l'autre voix qui demande « Tu irais ? Vraiment ? Tu connais combien de mots pour désigner les Noirs, Mary Pat ? Fais pas chier. Combien ? Sois honnête. Je connais « gens de couleur » et je connais « nègre ». Arrête ces conneries. Dis la vérité, et pas seulement les mots que tu connais. Dis ce que tu as utilisé, ceux qui se sont échappés de tes putains de lèvres gercées. Mais ce ne sont que des mots, plaide-t-elle devant une sorte de juge imaginaire, des pauvres qui disent des saloperies sur d'autres pauvres. La couleur de peau n'a rien à voir avec ça. Les riches font en sorte qu'on continue à se battre entre nous comme des chiens qui se disputent les miettes pour qu'on ne les attrape pas en train de se tirer avec le festin. Une fois qu'elle a fini son travail et que toutes les pancartes sont empilées le long du mur, de chaque côté de la porte d'entrée, elle va s'asseoir à la table de la cuisine avec la fenêtre ouverte et écoute les bruits de Commonwealth par une chaude nuit d'été. Et elle regrette que sa fille ne soit pas là avec elle. Elles auraient pu jouer aux cartes. Ou regarder la télé. Quelque part, dans la cité, quelqu'un appelle Benny. Un bébé se réveille en braillant. Un pétard éclate. Un seul. Quelques personnes passent sous sa fenêtre en parlant d'un certain Mel et d'aller au magasin de chaussures Thom McCann de Medford. Elle sent l'odeur de l'océan et de cet unique pétard. Elle est née ici. À trois immeubles de là, dans le bâtiment Hancock. Dukie a grandi dans le bâtiment Rutledge. Tous les immeubles de Commonwealth portent le nom d'un des signataires de la Déclaration d'indépendance. Jefferson, Franklin, Chase, Adams, Walcott, où elle habite à présent, et quelques autres. Elle connaît chaque brique, chaque arbre. Un jeune couple passe sous la lumière jaune bilieux d'un réverbère et le garçon dit qu'il en a marre. Mais vraiment marre. La fille lui réplique « Tu peux pas juste laisser tomber. Faut que t'essaies. » Et lui, il dit « C'est une proposition de merde. » Et elle « Mais c'est la seule proposition. Faut que t'essaies. » Juste avant qu'il soit hors de portée de voix, Mary Pat est presque sûre d'entendre le garçon répondre « Bon, d'accord. » Elle a les paupières qui clignent de fatigue. Finalement, elle traîne son cul jusqu'à son lit. Elle entend encore la voix de la fille. « Tu peux pas juste laisser tomber, faut que t'essaies. » Et elle se demande où Ken Fenn peut bien être en ce moment. Bien qu'elle en ait une petite idée, même si elle n'a pas la moindre envie d'en avoir une petite idée. Elle se demande s'il lui en veut encore, et pourquoi il semble se foutre complètement du fait qu'elle lui en veut tout autant, du fait qu'il l'a quittée, du fait qu'elle n'a jamais changé. C'est lui qui a changé. Et putain, qui il est pour changer comme ça après presque 7 années de mariage? Putain, il faut être qui pour jouer un tour comme ça? Pourquoi tu as cessé de m'aimer, Kenny? Demande-t-elle à l'obscurité. On avait fait serment devant Dieu. Elle se surprend en train d'espérer que Kenny, sans qu'elle sache trop comment, apparaisse dans cette obscurité. Tout au moins son visage. Mais il n'y a rien là à part l'obscurité. Et puis, elle entend ce qui pourrait être la voix de Kenny dans sa tête, mais tout ce qu'il dit, c'est « Suffit, Mary Pat, suffit. » « Qu'est-ce qui suffit ? » murmure-t-elle. « Arrête, » dit-il. « Arrête, c'est tout. » Elle pleure à chaudes larmes maintenant. Elle glisse de ses yeux sur ses joues, de ses joues sur son oreiller, de son oreiller
dans le col de son pyjama.
Arrête quoi ?
Rien. Il ne dit plus un mot. Tandis qu'elle s'endort, elle entend cette chose, ou elle s'imagine qu'elle l'entend. C'est sous l'asphalte, sous les sous-sols et les prédalles de béton. Le réseau. Des circuits, des conduits, des connexions qui canalisent et acheminent l'électricité, l'eau et la chaleur qui montent dans le câblage, les tuyaux et les tubes pour faire fonctionner son monde. Ou, comme c'était le cas ce matin, décider de ne pas le faire fonctionner. Elle voit ce réseau s'étendre comme une nappe de lumière douce à travers sa conscience qui devient trouble. Elle le sent palpiter sous ses paupières. Tout est connecté, s'imagine-t-elle marmonner à quelqu'un. C'est vrai.